dans le vent, le podcast sur la culture hip-hop. Artiste, producteur, personne de l'industrie, tu sauras absolument tout dans le vent, animé par Pete Gaillard sur 11MPL.
Mon invité est bourré de talent, fan de hip-hop et couronné par des études à la hauteur de son talent et de sa ténacité. De pigiste à reporter journaliste, elle affine un regard éclairé sur son quotidien, son travail et ses passions. Apparemment, elle aurait toujours voulu être journaliste et on va discuter avec elle justement de ce qu'elle entend par le journalisme. Est-ce que le journalisme, c'est plus qu'une personne qui collabore à la rédaction d'un journal ? En tout cas, notre invitée a fait ses classes dans les médias étudiants jusqu'à aujourd'hui travailler pour les gros médias. Pour elle, le journalisme, c'est plus que cela car elle a aussi une sensibilité en art. Aujourd'hui, à Dans le vent, je reçois Enya Ouldamou et c'est un pur plaisir d'avoir enfin une invitée. Comment ça va, Enya ?
Waouh ! Ton intro, moi, je suis touchée, franchement.
Merci.
Merci, merci. Pete.
Je pense que tout mon podcast se repose sur les intros, en fait.
J'attendais que ça, mais j'adore, franchement. Merci de m'avoir invité.
Merci à toi d'accepter. C'est la première fois, en fait, dans tous les épisodes que j'ai fait à Dans le vent, c'est la première fois que j'interview une journaliste, en fait.
Je suis honorée.
Merci beaucoup d'être la première.
Ça fait plaisir, merci à toi.
Je commence toujours l'entrevue par demander à mes invités leurs coups de cœur musicaux et par quel album, artiste, ils sont tombés dans la culture hip-hop, qu'est-ce qui les a amenés à aimer le rap.
Ok.
Donc, histoire de connaître la personne plus que ce pourquoi je l'invite par rapport à son art ou sa carrière ou son métier ou tout ça. Donc toi, comment t'es tombé dans le rap ? Qu'est-ce qui t'a plu et quels sont les albums ou les chansons, les artistes qui t'ont fait aimer cette culture ?
Ça va être compliqué à répondre parce que en fait, j'ai une grande sœur, elle a 7 ans de plus que moi.
Ok.
Et elle écoutait déjà ça à l'époque. Donc des rappeurs un peu comme La Fouine, tout ça, elle écoutait ça, donc moi j'avais pas trop le choix que d'écouter, donc c'est sûr que je suis tombée là-dedans à travers elle. Là, c'est paradoxal parce que là, elle écoute pas beaucoup de rap, tu vois.
Ok.
Donc c'est moi qui suis devenue un peu la...
Ok, genre elle a grandi, puis là, genre elle est saoulée
ouais,
un peu.
Ouais, c'est bon, elle écoute ses propres trucs. De temps en temps, elle écoute du rap, mais,
d'accord, okay.
Mais c'est plus moi vraiment qui écoute du rap. Donc c'est vraiment... c'était ça, ces références au début, des gens comme La Fouine, toute cette génération de rappeurs, on va dire, maghrébine, Rof, tout ça, voilà. Donc cette génération... Et puis, à partir de là, bon, j'ai commencé à écouter, mais j'en téléchargeais pas sur mon téléphone. J'étais encore dans les délires de jeunes, quoi. J'ai aimé One Direction.
Ouais, ok. Ouais, ouais, classique.
J'étais une fangirl.
Oui. Boys band, tout ça, girls band.
Ça, j'adorais.
Ok.
Et tout ce qui était pop aussi. J'étais très, très fan de pop. J'étais hyper fan de pop. Mais maintenant, je pourrais carrément te dire que je ne suis pas trop dans la pop.
Okay.
Je peux apprécier certains titres, mais je ne suis pas trop dans ça. Mais moi, le premier artiste avec lequel j'ai vraiment accroché, je sais, ça va l'air vraiment typique, mais c'est Nekfeu. Parce que c'est mon artiste préféré à l'heure actuelle.
Okay.
Oui. Ce n'est pas les anciennes générations de rap et tout. Okay. C'est vraiment lui avec lequel j'ai accroché. Kerry James aussi. Lettre à la République.
Ouais.
Ça a été une gifle.
D'accord, ok.
Une gifle. Et c'est Nekfeu. C'est un artiste avec lequel j'ai tout de suite accroché.
Donc t'as aimé le texte dans le rap, genre ?
Oui, c'est vraiment le texte. C'est ça qui m'interpelle le plus. C'est sûr que les sons vont m'intéresser. Oui. Mais c'est vraiment les textes et les émotions qui peuvent me procurer.
Okay.
C'est ça, c'est comme ça que je suis tombée dans le rap.
Et c'était Nekfeu dans 1995 ?
Nekfeu dans 1995, Nekfeu carrière solo aussi.
Oui, c'est d'accord.
Carrière solo aussi. Vraiment ça. J'ai pas de titre précis à te donner, c'est ça le truc. C'est
non, mais...
C'était un mix de plein de trucs et après j'ai commencé à faire mes recherches, à creuser un peu... et c'est là où j'ai commencé à écouter un peu tout. C'est là où je suis tombée vraiment, vraiment dans le rap.
Ok, d'accord, super.
C'est une réponse un peu typique, un peu cheesy, mais...
Non, mais moi, Nekfeu aussi,
c'est
dans mes artistes préférés aussi. Donc, voilà. Je comprends totalement que...
Direct... Je suis jeune aussi, donc je suis...
Ouais,
voilà.
C'est vrai.
Je suis jeune.
C'est vrai. Mais t'as écouté un 995 avec genre avec Nekfeu ou pas
Oui, j'ai écouté. Ouais. Mais
après, genre.
Après, okay. C'est ça le truc. Okay. C'est que j'ai 24 ans. Mm. Nekfeu a lancé sa carrière solo.
2015.
15 ans. Donc, fais le calcul. J'ai pas pu écouter un 995 à leur époque vraiment. Mais ouais. Après ça, oui, c'est sûr que j'ai fait beaucoup de rattrapage.
Ok. Super. Tu as participé à des projets étudiants comme le journal Le Reporter Plus. Oui. Généralement, quand on s'investit, quand on étudie dans un projet comme un journal ou une radio, on est en feu, là, tu sais.
Ouais.
Et on a envie de changer le monde. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'a appris d'être impliqué dans un journal comme ça, genre comme le Reporter Plus
Déjà, au Reporter Plus, j'étais rédac chef.
Exact, donc, c'est ça. J'ai oublié de le préciser.
Non, pas de problème. Mais j'écrivais pas d'articles. J'étais plus... Je veillais au bon fonctionnement, on va dire, du journal, des réunions avec les collaborateurs, on décidait des sujets dont on allait parler. Et ce que j'ai appris, c'était pas tant le journalisme en tant que tel en termes d'écriture.
Okay.
C'était beaucoup plus... on va dire que c'était de la gestion, en fait. C'était vraiment de la gestion et tout ce qui est déontologie.
D'accord.
Donc, tout ce qui est... de quoi est-ce qu'on peut traiter, comment on va traiter de ces sujets. Donc c'est tout cet aspect éthique sur lequel je misais le plus avec ce rôle de rédac chef. Les relations aussi, comment gérer des relations, c'est important, on s'en rend pas compte, mais en journalisme, comment gérer des relations dans une salle de nouvelles, c'est tellement important.
Okay.
Je veux dire, là, j'ai pas envie de sauter jusqu'à aujourd'hui, mais je vais le faire un peu.
Ouais.
Mais aujourd'hui, je travaille à CBC, donc... c'est sûr
gros que... média.
je ne nierai pas. Mais vu que je travaille là, j'ai fait des reportages télé, des reportages radio. Donc, tu dois gérer les relations, on va dire, avec ton affectateur, avec le caméraman, avec le monteur, avec les invités, les gens que tu vas interviewer. C'est toi qui gères tout. Tu es au centre de tout, en fait.
Ah, tout ça seul.
Bah, tu contactes, c'est toi qui contactes les invités. C'est toi qui... donc, on fait ce qu'on appelle du chasing.
Okay.
On chasse un peu, on part à la chasse.
Okay.
Donc, on appelle les invités nous-mêmes, on les démarche. Des fois, nos affectateurs ont déjà des contacts pour nous, donc on les contacte grâce
genre
à eux.
Comme une banque de données.
Oui, on a une banque de données, on a des archives et tout, des gens à qui on a déjà parlé aussi par le passé.
Okay.
Ensuite, tu pars avec ton caméraman, donc tu discutes avec lui, tu lui parles du reportage. Le monteur, tu es assis à côté du monteur, donc tu regardes un peu comment ça se...
Ok, d'accord, ouais, t'es là de A à Z. Ah ouais.
Tu es là de A à Z.
Ok, genre tu laisses pas le monteur pendant que toi tu es au café.
Ah non. Ça serait bien, ça serait cool.
Ça serait bien, mais
c'est bien aussi parce que tu vois, le monteur, il n'a pas passé la journée
avec
que t'as passé.
Exact.
Il ne sait pas forcément ce dont tu as traité avec les invités. Donc, c'est bien que tu sois là pour l'aiguiller aussi. Puis lui dire, moi, j'aimerais ça comme image, tatati, tatata. Mais après, on leur fait confiance. Hein, eux qui gèrent. Donc, c'est ça, c'est les relations aussi. Il faut que tu t'entendes bien avec les gens. Donc... Le Reporter Plus, ça m'a appris ça aussi. C'est comment gérer des relations, comment... Et l'éthique.
Mais t'es direct rentré comme rédac chef
Reporter Plus, oui.
Incroyable quand même.
Incroyable, mais je vais te dire la vérité en fait, c'est qu'on a fait une réunion.
Okay.
C'était pour la nouvelle édition, on va dire, du Reporter Plus. Okay. Notre professeur nous a dit, voilà, ceux qui veulent s'impliquer, impliquez-vous.
Okay.
On a fait la réunion, puis c'était vraiment démocratique, en mode, qui veut être collaborateur, qui veut être rédac chef. Donc j'ai pas le mérite.
Non, mais quand même, il faut accepter parce que c'est une grosse charge quand même.
Oui.
Tu sais, t'es aux commandes d'un bateau, genre.
Oui.
Et là, t'as dit, toi, ouais, ok, go, j'y vais.
Oui. J'ai voulu tout de suite y aller.
Ok.
C'est sûr que je voulais explorer le journalisme en termes d'écriture, mais je me suis dit, ça pourrait être une expérience aussi que d'être rédac chef et de voir un peu comment chaque personne écrit, apprendre d'eux également.
Comment coordonner et tout.
Exactement. Donc, c'est plusieurs trucs que ça m'a appris. C'est pas que... c'est pas que le journalisme en tant que tel, la pure et dure. C'est vraiment plus que ça.
Ok. Et quand tu faisais ça, est-ce que tu avais une idée que lorsqu'on est journaliste professionnel comme tu l'es maintenant, tu allais devoir gérer tout ça tout seul, comme par exemple un tournage, un reportage, tout ça?
Non, je pensais pas que ça,
donc,
ça
en
allait
fait,
être ça.
Donc en fait, c'est comme si tu as fait une formation qui est vraiment très adéquate par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, sans le savoir, genre.
Oui, sans le savoir, oui, c'est vrai. Okay. Mais ça, c'est plus au niveau, on va dire, des relations, puis de la déontologie et tout. Ça m'a appris des trucs à ce niveau-là. Mais en rentrant à CBC, bah, c'est vraiment une école de formation. C'est vraiment, je me suis beaucoup formée là-bas. J'ai énormément appris. Et aussi, tu travailles avec des reporters qui ont beaucoup d'expérience, donc et des affectateurs qui ont de l'expérience. Ça, c'est des, souvent, c'est des anciens reporters. Tu travailles avec l'animatrice du téléjournal qui a énormément d'expérience, qui est journaliste. Je m'attendais pas forcément à ce que j'ai vécu au Reporter Plus, ça soit pareil à CBC. Je me suis juste dit c'est une bonne expérience. On va, je m'attendais pas à rentrer à CBC, je peux pas te mentir.
Oui, non.
Donc je savais pas que ça serait comme ça dans une salle de nouvelles, mais ça m'a donné une petite idée. Ouais. C'était un bon début.
Mais comme je le disais en intro, apparemment, tu vas confirmer, tu as toujours voulu être journaliste.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais.
C'est ce que j'ai trouvé.
Où est-ce que tu as trouvé ça?
En faisant des recherches sur Internet sur toi.
Tu as fait de très bonnes recherches. T'es un bon journaliste, Pete.
J'essaye. J'essaye.
Oui, c'est vrai que, en fait, mon père était journaliste.
Ok.
Il était journaliste en Algérie.
Ok, super.
J'ai pas envie de dire que je suis devenue journaliste parce qu'il était journaliste, mais veut pas, peut-être inconsciemment, il m'a transmis sa passion pour le journalisme. Mmh. Tu sais, il me racontait des anecdotes de comment c'était le journalisme en Algérie. Il travaillait dans des journaux francophones, donc il écrivait en français. Okay. Ma mère, elle sait plus à travers les livres. Elle m'a transmis sa passion des livres, de la lecture. Ma mère était prof d'anglais, enseignante en anglais. Donc j'ai toujours baigné dans une culture des langues, de l'ouverture sur le monde, des livres, de la lecture, de la littérature, de tout ça, de la culture.
Ouais.
Et puis le téléjournal était toujours, toujours là à la maison, on regardait toujours les nouvelles.
Ouais.
Je crois que j'ai même une photo de moi devant la télé, devant, je pense, une chaîne de Radio-Canada, une émission de Radio-Canada plutôt. Et je me dis, c'est drôle parce que là, je suis là. Quoi.
C'est incroyable.
Je travaille là, tu vois.
Ah, c'est fou.
Donc oui, ça a toujours été une passion. Un intérêt, mais j'ai pas cherché à le développer quand je suis rentrée à l'université.
Ah ouais?
Parce que
ça, c'est intéressant.
Ouais, j'ai pas cherché à le développer, non, c'est un peu faux, mais dans le sens où j'ai étudié en psychologie et en sciences politiques, donc je me suis pas dit je vais faire un programme de journalisme. Et ensuite, à partir de là, de temps en temps, je faisais quelques collaborations dans des journées étudiantes. Donc, j'ai fait
l'application étudiante, ouais.
Exactement. Donc, je me suis impliquée, mais je ne me suis pas dit « je vais faire ça pour être journaliste ». Je me disais juste « c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours, je vais essayer, je vais voir ». Donc, c'était vraiment par passion. Mais après, quand j'ai quitté l'université, je me suis dit « ok, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je rentre en politique ?» Et ça m'avait un peu déçue, tu vois. À la base, je m'étais dit je vais travailler dans l'ONU, tout ça. J'avais des grandes ambitions, mais...
Ou alors rattaché politique d'un homme politique.
Ouais.
J'ai un ami qui a fait ça après des études en sciences politiques à l'UDM, en fait. Il a été attaché politique d'homme politique. En tout cas.
Est-ce qu'il a continué sur cette voie ?
Non, là, il a arrêté. Okay. Mais il a fait ça pendant 4-5 ans quand même.
C'est ça, en général.
Super intéressant.
Bah oui, t'apprends énormément sur la politique.
Ouais.
Mais non, c'était pas trop mon plan. Mais je m'étais dit, peut-être la politique, on va dire, fédérale. Donc je me posais des questions, mais j'avais été un peu... J'étais un peu pessimiste par rapport à ce qu'on pouvait faire en politique, tu vois. Je dis pas que je le suis aujourd'hui, mais je l'étais un peu. Je me dis, mais qu'est-ce que concrètement...
Moi, je le suis à 100%.
Toi, tu l'as à 100%, tu l'assumes.
Aucun problème. Ouais.
Écoute, c'est ça, j'étais un peu pessimiste. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais faire un certificat en journalisme. Je vais démarrer ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et j'ai adoré.
Mais tu as étudié dans les deux langues, je pense, en français et en anglais.
Ouais, exactement.
Okay.
J'ai fait le primaire, le secondaire en français, le cégep et l'université en anglais.
Waouh. Et CBC, c'est exclusivement anglophone, non?
Exactement. Donc, exclusivement anglophone. Radio-Canada, c'est la version, on va dire, francophone.
Donc, toi, t'es en anglais du lundi au vendredi, là?
Ouais, exactement.
Waouh.
Après, t'as des collègues qui parlent français aussi.
Oui,
donc,
bien sûr, mais le contenu
est en anglais. Exactement. Okay. Ouais. C'est, parce que moi, de base, je suis francophone, mais je me suis dit, on va se lancer un défi, on va tenter. Ouais. Et puis voilà. Ouais.
Et. T'as étudié en art aussi.
En art ? Qu'est-ce que j'ai étudié en art ? Attends, rappelle-moi.
Je sais pas si peut-être que je me trompe, mais t'aurais pas fait un certificat en art aussi ou en...
Un Bachelor of Arts, c'est
ouais.
ça ? Ouais, en fait, ça c'est mon... comment dire ? Dans ma double majeure en sciences politiques et en psychologie.
Okay.
Donc, ils appellent ça Bachelor of Arts.
Ok.
mais c'est pas des arts comme on
l'entend. Ok, là, moi je pensais que tu avais étudié en histoire de l'art. Genre.
Ah non, ça aurait été cool, ça aurait pu m'intéresser, ouais. Mais non, j'ai pas étudié en ça, mais ouais, c'est ce qu'ils veulent dire par Bachelor of Arts. C'est un peu.
Ok, c'est vraiment au sens large du terme, quoi.
Exactement.
Ok. Donc, ma question suivante, c'est est-ce que tu as une sensibilité en art, genre ?
Oui, je dirais que oui, quand même, parce que. Mais déjà, pour tout type d'art, j'adore. Je sais pas, j'adore l'architecture, j'adore la peinture, j'adore la musique. Okay. Tout ce qui peut me procurer une émotion, tout ce qui peut me faire analyser. J'adore analyser des trucs, ouais. Et interpréter des œuvres. Donc, oui, j'ai vraiment une sensibilité pour l'art. Ma ville préférée, c'est Paris. C'est vraiment cliché, ouais. Mais c'est Paris.
Non, mais ça a une grande histoire artistique, quoi.
C'est ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas cette ville, qui me disent « Enya, c'est overhyped. Pourquoi t'aimes cette ville à ce point-là » Mais je suis
t'es allée déjà ?
C'est beau. Oui, oui, je suis allée 4 fois.
Ok, donc, ok. Ça va, t'es une Parisienne.
Oh, quel compliment. Non, mais en vrai, j'ai vraiment une sensibilité pour l'art.
Ok, super. C'est quoi ta vision sur les articles écrits ? Mm-hmm. C'est, on dit aujourd'hui qu'on lit plus trop car on a tous des TDA à cause des téléphones et puis qu'on est hyper sollicité de partout. Mm. Moi-même, j'ai écrit plus de 300 articles, tu vois.
Wow.
Donc, j'ai vraiment cette passion de l'écriture. Puis justement, j'ai eu beaucoup de discussions avec des gens de 11MTL là-dessus.
Mm-hmm.
Parce qu'au début, il y a 6-7 ans, on faisait beaucoup d'articles et tout ça. Et maintenant, on lit de moins en moins.
Okay.
Tout est sur le téléphone. On a beaucoup d'articles digitaux. Donc, vraiment, montage vidéo, narration, c'est sous-titres vrai. Et tout, machin et tout. Toi, c'est quoi ta vision sur les articles écrits,
mm-hmm.
parce que tu le fais, et comment c'est perçu aussi dans les grands médias, dans mm-hmm. les gros médias professionnels et tout, le fait d'écrire. Surtout que là, en plus, on est depuis, je sais plus, un an ou deux, là, il n'y a plus de nouvelles sur les réseaux sociaux.
Oui, tu ne peux plus trop avoir accès aux...
Tous les comptes, ils sont shut down. J'ai jamais compris pourquoi il y a eu cette loi du fédéral. Je ne me suis jamais vraiment intéressé. Mm-hmm. Mais par exemple, tu vas sur l'Instagram...
Si tu veux publier un lien d'un article, tu ne pourras pas y accéder.
Ou l'Instagram genre de CBC ou genre de TVA a été shut down. Nous, en tant que médias avec 11MTL, on avait eu peur de ça, qu'on nous le shut down, même si on n'est que dans le culturel. Alors, comment c'est vu l'écriture, tout ça, puis,
Bonne question.
Est-ce que vous en parlez vu que toi, tu es vraiment dans un média professionnel, un gros média canadien, c'est ça, genre comment c'est perçu l'écriture ? Est-ce que les gens lisent encore ? Est-ce que vous avez des statistiques là-dessus ?
J'ai pas de.
C'est une grande question. Hein. Je pense qu'on peut passer les 30 prochaines minutes là-dessus.
Je pense que oui. Est-ce qu'on en parle de manière informelle ? Oui. Genre entre collègues, en mode de, qu'est-ce qui fonctionne mieux ? Qu'est-ce qui attire plus d'audience ? Mais. Je suis pas rentrée dans le journalisme en me disant je vais travailler sur cette plateforme parce qu'il y a plus de gens. Okay. Je me dis pas je vais faire de la télé parce que peut-être qu'il y a plus de gens. Je le sais pas moi. J'ai pas les statistiques. Je vais pas te mentir. Je sais pas combien de gens ont regardé les reportages que j'ai pu faire.
Ouais.
Mais là c'est vrai que j'essaie de m'orienter plus vers l'écriture par passion, pas par encore une fois pas parce que je me dis les gens regardent plus la télé ou regardent moins la télé, je me pose pas cette question.
Ou sont plus sur TikTok ou whatever.
Ouais, c'est ça. Je pense que le digital prend énormément de place et quand je dis le digital, on fait la distinction entre télé et digital. Donc tu as la télé, le média traditionnel, et tu as le digital, tout ce qui est Instagram, TikTok, les vidéos qu'on peut mettre en ligne. Mmh. C'est sûr que je pense que les gens sont plus intéressés. J'ai l'impression, ça c'est vraiment c'est pas une statistique ou quoi que ce soit, c'est ma perception.
Okay.
Mais j'ai l'impression que les gens sont plus intéressés par ça. Les articles, je crois que les gens lisent encore. Je suis convaincue que les gens lisent encore. Et je pense que les gens lisent plus qu'ils ne regardent la télé.
Ça c'est intéressant, ça ce que tu dis. Sérieux, tu penses ?
Oui, je suis convaincue parce que justement, tout est sur ton téléphone.
Il y a de l'espoir.
Donc, tu te lèves le matin. Ouais, il y a de l'espoir carrément, il y a de l'espoir. Ouais. Donc, si tu te lèves le matin, tu lis tes nouvelles. Encore une fois, je ne connais pas la statistique. C'est quoi le nombre de Québécois qui lisent les nouvelles en ligne. Mais les articles sont pas non plus hyper longs. Tu as le lead aussi en début d'article qui fait en sorte que tu peux avoir ta nouvelle rapidement. Tu n'as pas besoin de lire. Certains ne lisent pas l'article en entier. Je vous encourage à lire les articles en entier. Il y a beaucoup de taf derrière tout ça.
Bah oui, c'est clair. 100%.
Mais ouais, non. Et la télé, est-ce qu'il y a beaucoup de gens même qui en ce moment qui regardent la télé, tu vois ce que je veux dire, avec les abonnements Netflix, avec Prime, avec tout ça,
Crave et tout là.
Ben oui, est-ce qu'il y a vraiment énormément de gens qui se connectent à je sais pas telle heure et qui je pense qu'il y a des gens, je crois qu'il y a une audience, j'en suis certaine, j'en suis convaincue.
Toi, tu regardes la télévision?
Oui, je regarde les nouvelles.
Ouais.
Je vais regarder les nouvelles, mais la télévision en tant que telle, en mode
tu sais, genre tu vas t'asseoir pour écouter un film à la télé?
Bah sur Netflix ou mais la télé en tant que telle, on va dire les chaînes, non, je vais regarder pour les nouvelles.
Bah oui, exact.
Et même les nouvelles que je vais regarder, les nouvelles vidéos, bah je vais regarder sur mon téléphone des fois.
Exact.
Par exemple, CBC, on a le téléjournal en direct sur nos téléphones. Ouais. Tu peux, t'es même pas obligé d'aller sur ta télé, tu peux regarder ça sur ton téléphone. Donc je pense que c'est le téléphone vraiment qui gère tout, et même l'ordinateur, tu vois. La télé, je sais pas trop. Faudrait regarder des statistiques et je suis curieuse. Et là, je vais aller poser la question.
Retournant
au travail.
Comment vous avez vécu ça, le fait que les réseaux sociaux soient shut down, tu sais? Moi, ça m'a fait un choc au début, tu sais. J'étais comme, oh, il n'y a plus rien sur Radio-Canada, il n'y a plus rien sur TVA. Comme tu vas sur Instagram, il n'y a plus rien.
Oui, c'est vrai. Bah, je vais te parler d'un point de vue encore une fois personnel. Ouais. J'en ai pas tant discuté avec mes collègues. Okay. Je faisais mon truc de mon côté parce que d'un côté, ça m'affectait pas trop.
Ok, d'accord.
Personnellement.
Ok.
Parce que t'as pas eu peur
genre pour ta job, genre t'as pas eu peur de perdre ta job, genre?
Non, même pas. Non, parce que à ce moment-là, je faisais des reportages télé.
D'accord, ok.
C'est ça. En ce moment, je suis en train de faire de la recherche. Okay. Je fais plus de reportages télé en ce moment. Je fais de la recherche et j'essaie de m'orienter vers l'écriture. Donc tout ce qui est web, article web.
Ah super.
Donc j'essaie de rediriger un peu ce que je faisais avant à ça. Mmh. Mais ouais, à ce moment-là, quand c'est arrivé, ben je faisais des reportages télé. Donc je me posais pas la question de qu'est-ce qui va arriver au Instagram. C'est sûr que je regardais, je me disais, oh mon Dieu, c'est dommage pour mes collègues qui font plus dans le digital et dans les articles. C'est vrai que
c'est vraiment dommage de plus avoir d'informations.
C'est vrai qu'il y avait ce point d'interrogation en mode, mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va publier sur notre Instagram. Mais encore une fois, j'étais un peu dans ma bulle télé.
Ok, d'accord.
On en discutait là, je veux dire, j'étais pas là juste à penser qu'à ma gueule, mais
non mais oui,
j'étais pas inquiète à ce niveau-là.
D'accord, ok.
Pour les autres, oui, c'est sûr.
Ok. Ok. Non, mais c'est moi, j'ai
toi,
vraiment.
Tu t'es inquiété pour 11ème tel, tu m'as dit, c'est ça?
Bah ouais, bah tu sais, genre, bah je sais pas, tu sais, genre, on a flippé 5 minutes quand même, quoi, tu vois. Genre, on s'est dit merde, tu sais, genre, imagine, ils nous shut down le truc, quoi, tu sais.
Ouais, puis vous postez beaucoup sur Instagram, tout ça, donc c'est sûr que ça affecte
C'est ça,
les médias.
Puis cette décision que, comme encore je t'ai dit, moi j'ai vraiment pas trop bouquiné dessus, fait que j'ai pas fait de recherche, fait que je sais pas trop le pourquoi du comment, de pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de faire ça. Je l'ai pas compris, il y a sûrement une explication rationnelle à ça, tu vois. Mais c'est juste le fait de couper l'accès à l'information sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça
C'est déstabilisant.
Déstabilisant, voilà, c'est ça.
Ouais, tu te poses des questions sur où est-ce que ton média va aller et tout. Donc,
c'est ça. Après, il y a les applications comme la Presse Plus, par exemple, les applications de CBC et tout, pour le Radio Cannes.
Mais c'est ça qui est bien aussi avec CBC, c'est que c'est multiplateforme.
Exact.
Donc, tu as un peu de tout. Tu as de la télé, tu as de la radio, tu as du digital, tu as des articles web. Donc, il y a d'autres plateformes. On n'est pas juste sur une plateforme, ce qui fait que ça serait un peu plus inquiétant.
Exact.
Tu
as écrit sur beaucoup de choses, comme le racisme systémique, sur la culture, le théâtre et même le sport. Et apparemment, il y a quelques années, lors de ton chemin d'études, tu pensais que le journaliste ne devait pas donner son avis. Et moi, je pensais exactement la même chose de mes profs de sociologie à l'UQAM ou mes profs de philo, qui poussaient à nous faire réfléchir et qu'on ne soit pas influencé par le choix du prof, tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça maintenant? Est-ce que tu as encore cette manière de penser là, ou tu penses que le journaliste doit donner son avis, l'affirmer, ou juste transmettre l'information genre à la population, puis
Oui, c'est ben en fait la raison pour laquelle j'avais dit ça, c'est
Ouais.
que
Et puis c'est très intéressant parce que moi je pensais comme toi.
tu pensais
Bah
que le
ouais.
journaliste devait pas donner son avis.
Ouais.
Bah encore là, ça dépend, on va dire, des médias. Moi, je pense que de manière générale, le journaliste ne devrait pas donner son avis. Je pense que c'est la place du chroniqueur. Je pense que c'est le chroniqueur qui peut se permettre, clairement, parce que ben, c'est son job.
Ouais.
Et on le sait quand on lit un article, une chronique, on sait que c'est une chronique, donc on sait qu'on va potentiellement être influencé par son opinion. Donc
Exactement. 100%.
on ne ment pas au lecteur. Le
Ouais.
lecteur sait à quoi s'attendre
Exact.
et il sait ce qu'il va trouver dans l'article. Mais
Selon tel ou tel chroniqueur, genre.
selon, ouais,
Ouais, c'est ça.
dépendamment du
Ouais,
chroniqueur, c'est ça
c'est ça.
exactement. Mais un journaliste, pour moi, devrait le plus possible tenter de s'effacer du reportage ou de l'article, parce que ben, pour moi, l'objectif, c'est d'être observateur, d'observer la scène, d'observer ce qui se passe, d'observer un événement, d'observer un phénomène et de transmettre l'information et de laisser aux gens la possibilité, l'option de prendre une décision
Ouais, exact.
et de réfléchir par soi-même,
Ouais.
tu vois. Mais la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est plus parce que dans mes cours, on était encouragés à réfléchir, à analyser, à critiquer certains trucs. Donc,
Donc, à donner votre
à
avis,
donner
genre,
notre
ouais.
avis. Et c'est pas vrai qu'un journaliste n'a pas d'opinion.
Bien sûr,
Excuse-moi,
100%. Bah
mais
oui, bah oui,
voilà,
bah
on est
non.
humain.
Bah oui.
Dans la salle de nouvelles, des fois, on se donne
Bah
notre
oui.
opinion, mais ça va pas. Il faut pas que ça apparaisse dans l'article ou dans le reportage. Et en
Ouais.
général, les gens le font très bien.
Ouais,
Et
ouais, ouais.
tu sens que ils laissent un peu leur opinion de côté et ils y vont avec le plus d'impartialité possible.
Ouais.
Donc oui, moi je pense que le journaliste devrait pas donner son avis. Mais j'ai grandi en regardant des chaînes françaises, des journaux français,
Où les
et
gens
je sais que
prennent
c'est
trop
différent.
leur avis, Steve. Ah oui, tellement.
Et
Bah oui,
ça peut me
tellement.
déranger, franchement. Après, je sais que
Ouais,
quand je
c'est
vais sur
rough,
une
hein, des
chaîne,
fois.
ouais, c'est très rough. C'est
Ouais.
très rough.
Ouais.
Mais c'est après, c'est une culture journalistique
Ouais.
différente. Ce que
Ouais.
tu vois, ce que je respecte.
100%.
Et les gens savent aussi à quoi s'attendre. Quand ils vont sur CNews,
Ouais.
ils savent qu'est-ce qu'ils vont entendre.
Grave.
Hein? On est d'accord.
Ouais.
Si ils lisent Le Monde, ils savent à quoi s'attendre aussi. Donc, il y a la ligne éditoriale aussi qui
Ouais.
joue. Donc,
Qui est
c'est
aussi.
sûr que c'est un peu orienté. Il
Ouais.
y a des
Ou de
lignes
gauche ou
éditoriales.
de droite
Oui. On va,
selon les médias, tu sais.
exactement. Mais nous, on travaille. Ben, moi, je travaille pour un média qui est indépendant du gouvernement. Donc,
Ouais, 100%.
on peut parler du gouvernement. S'il n'y a pas de. Tu vois ce que je veux dire?
Bien sûr,
Les
bien
gens
sûr.
pensent souvent que, oh, vu qu'il y a un financement du gouvernement, c'est la
Ouais, mais
société
non.
d'État. Non, non,
C'est
c'est
très
du
important
journalisme.
que tu le rappelles.
Ah oui, non, je le rappelle, c'est du journalisme indépendant.
Ouais.
Et c'est ça. C'est ça le journalisme indépendant.
Bah
Donc,
oui, bah ouais.
ouais, voilà.
Ok, cool. Très bien, très. Merci de ta réponse.
Ça fait plaisir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis vraiment curieuse.
Ben moi, je pensais comme toi, tu sais, je pensais que oui, le travail du chroniqueur puis de la chroniqueuse, c'est vraiment de donner son avis sur quelque chose parce que c'est un événement, genre il fait une petite chronique de
Ouais.
genre 4-5 minutes, même à la radio. C'était ça, tu vois. Puis bon, après, moi j'ai fait de la radio, mais que dans des radios communautaires, fait que la plupart du temps, c'est des radios de gauche, d'extrême gauche, fait que
Les
les.
opinions ressortent là,
Ouais,
forcément. Ouais.
voilà, c'est ça. Mais je me rappelle dans mes cours de sociologie et mes cours, bah plus mes cours de sociologie que mes cours de philosophie, mais dans mes cours de sociologie, nous, on voulait savoir ce que le prof pensait.
Ok, ouais.
Mais le prof, il nous disait, bah non, si je vous oriente trop,
C'est ça.
j'ai peur que dans vos devoirs, je me retrouve, quoi.
Ben oui,
Puis
puis
je veux
vous
pas
vous
forcément
encourage
me
pas à
retrouver.
réfléchir, c'est ça?
Ouais, voilà, c'est ça. Donc nous, on essayait de
Tant
piéger le
bien que mal
prof.
de trouver.
Mais tu sais, genre, tu peux pas piéger un prof de sociologie,
Non,
toi,
non,
tu
non, impossible.
sais. Genre, voilà, tu
Ok. Donc
sais.
tu penses que c'est ça? Tu penses que le journaliste devrait pas
Ouais. Ouais, je pense que.
s'insérer dans
Ouais.
la scène, on va dire,
Ouais, je
voilà.
pense que c'est un haut-parleur pour la société.
Exactement, exactement.
C'est un haut-parleur pour la société. Puis, même des fois. Quand j'écoute des rappeurs, j'arrive pas à savoir ce qu'ils pensent, mais qu'ils exposent un fait, quelque chose, une situation, ben je les trouve encore plus forts, tu vois.
Ok,
Parce
ouais.
que tu sais pas vraiment ce qu'ils pensent.
Intéressant.
Et d'autres, oui, bien sûr, tu le sais vraiment, mais quand il y a cette subtilité, genre dans la plume,
Ouais.
et que tu sais pas, genre, ce que le rappeur ou ce que la rappeuse pense, ben Là, je me dis, putain, il y a un effort d'écriture, quoi.
C'est ça, parce que c'est facile de donner son opinion. C'est facile de d'écrire son opinion, on en a une. Mais de se retirer vraiment entièrement et de laisser à la personne qui écoute...
Un doute, genre.
Un doute, c'est dur.
Ou qu'il se fasse son propre avis, tu sais.
Ouais, parce qu'il y a plein de trucs sur lesquels t'écris, il y a plein de trucs que tu couvres qui... Voilà quoi, j'ai toujours une opinion, je suis une personne, j'adore débattre et tout, donc c'est dur.
Et surtout, ce que j'ai nommé là, des thèmes sur lesquels tu as écrit, le racisme systémique, la culture, le théâtre
ou le
sport, c'est quoi que tu préfères? Genre là aujourd'hui, en 2024, quel sujet, quel thème te plaît le plus si tu devais écrire
en ce moment?
C'est genre LOL.
Je dirais il y en a plusieurs, mais beaucoup la politique internationale, j'aime beaucoup. Et puis les histoires un peu de communauté, tu vois. Genre des trucs un peu plus locaux, donc des belles initiatives qui sont faites par des Montréalais.
Dans des quartiers, dans des arrondissements.
Ouais, c'est ça, tout ce qui est vraiment humain, ce qui connecte des gens les uns aux autres au sein d'une même communauté, ou qui crée des ponts et des liens entre plusieurs communautés. J'adore ça, tout ce qui est c'est beau de voir ça aussi, de voir ce côté positif aussi. Mais la politique internationale aussi, j'ai toujours aimé ça, j'étudie en politique, donc j'aime beaucoup ça. Puis le hip-hop, bien sûr, on va pas se mentir. Donc voilà, c'est des sujets que j'aime beaucoup, mais j'aime de tout, franchement, j'aime tout.
Est-ce qu'il y a une politique d'un pays qui t'intéresse le plus? C'est genre, moi par exemple, je suis très peu... Puis bon, c'est peut-être pas bien, mais je suis très peu la politique d'ici. Mais j'adore la politique américaine. Est-ce que toi, il y a un pays, il y a un système politique qui t'intéresse le plus?
La politique française me fascine. Franchement. parce que justement, j'ai grandi en regardant plutôt des chaînes françaises, les journaux français aussi. Donc, c'est sûr que c'est... ça m'intéresse parce que c'est tellement différent d'ici.
Ouais, grave, ça n'a rien à voir.
Mais c'est intense, mais il y a de l'action, ça bouge énormément. Les gens se permettent de dire des trucs qu'ils ne diraient pas ici. Et je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose.
Non.
Il y a beaucoup qui qui débordent.
Moi, j'aime aussi beaucoup comment je pourrais dire, l'espèce de réserve que les gens ont ici aussi, tu vois. C'est d'autres mœurs,
tu sais. Ah, c'est sûr que si tu me demandes de préférer, entre guillemets, une politique, je suis contente d'être...
Je
suis contente d'être au Canada, franchement, d'être née ici. C'est sûr que la politique française est très, très intéressante. C'est fascinant. C'est fascinant, ouais. Donc, c'est ça, une des politiques qui m'intéresse. Il y a d'autres endroits qui m'intéressent aussi. Toute l'Afrique en général, le continent africain, les politiques des pays africains. Vu que je suis africaine, donc forcément, il y a une connexion. Moyen-Orient, l'Amérique latine. En tout cas, il y a beaucoup de... toutes les politiques de tous les continents,
Mais
oui, la politique française, vraiment, oui. C'est une des politiques que je suis le plus.
Puis, vu que ton père était journaliste, il est à la retraite aujourd'hui?
Il n'a pas continué le journalisme ici. Il a fait 2-3 ans dans des journaux.
Il s'est réorienté dans autre chose.
Il s'est réorienté forcément parce qu'il n'y avait pas tant de job et d'avenir là-dedans au début. Puis surtout quand il est arrivé avec ma mère et ma sœur. Donc, je n'étais pas encore née à ce moment-là. Mais fallait à un moment donné...
manger.
Voilà, fallait manger, quoi. Mais il était très épanoui. S'il avait pu continuer, il l'aurait fait. Donc, c'est ça. Mais il n'est pas à la retraite, non, il travaille à l'heure actuelle.
Puis, est-ce qu'il te parle de ce que tu fais en journalisme?
Oui, on en parle énormément.
Il laisse traîner une oreille, un œil, genre...
il est fier, il est très content.
Franchement, super.
Il est fier, ma mère aussi, est très fière. Oui, c'est sûr qu'on en parle. Des fois, je sors du travail et je fais des débats avec lui. Mon père et moi, on adore débattre.
Incroyable, c'est génial.
C'est un duo intéressant.
Ah ouais, hein.
Ouais, on adore débattre, vraiment. Et il me pousse vraiment à réfléchir. il pousse la réflexion hyper loin. Genre, il me challenge beaucoup dans mes réflexions. Il me dit, là, tu vois trop noir et blanc. Il faut que tu vois un peu des zones grises. Okay. Et il me pousse à aller vers la nuance.
Ok.
Ouais, et même ma mère aussi. Ma mère et moi aussi, on aime débattre de sujets de société et tout. Donc, oui, ils suivent mon travail. Et des fois, je pose des questions à mon père. Je dis, mais qu'est-ce que je devrais faire?
Bah oui.
C'est sûr que je lui demande conseil. Ouais,
ah, ça, c'est cool. Ouais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il doit être fier en plus, toi?
Ah ouais, il est fier et je suis fier de mes parents aussi.
Bah ouais,
je leur retourne aussi la même, ouais.
C'est clair. Tu as participé à la rédaction de l'article « Meet the OGs of Montreal Hip-Hop » que l'on retrouve sur le site de CBC News, écrit avec Anthony Nérestan. Anthony, ok, c'est pas Antonin?
Non, Anthony, okay. On respecte le nom.
Avec Anthony Nérestan.
Et je tiens à faire un shout-out à Anthony, vraiment.
Salut Anthony.
On a vraiment travaillé ensemble, c'était super cool de travailler avec lui, il est incroyable franchement.
Ouais, donc c'est un article qui part vraiment des débuts du hip-hop montréalais, et justement, est-ce que tu as pu voir le documentaire Les Racines du Hip-Hop Québécois là, qui a été fait?
J'ai tellement honte, mais je ne l'ai pas vu encore.
Ah, mais moi aussi,
non,
j'ai pas vu.
Je veux le voir.
Moi aussi, je ne l'ai pas vu, t'inquiète pas. il est sur le site de Télé-Québec.
Ok, merci. Mais là, je vais aller regarder ça ce soir.
En fait, il sortait un épisode par semaine. Fait que moi, j'étais comme, non, je n'irai pas le voir parce que je déteste le truc de tu sais, genre voir un truc puis attendre, quoi.
Ok.
Que là, je pense que tout est sorti, mais je ne suis pas sûr.
Tu veux tout voir d'un coup, quoi.
Ouais.
Ok, ok.
Ce que j'ai beaucoup aimé dans votre article, c'est les archives, elles sont incroyables.
Ouais, ouais.
Je pense qu'on n'avait jamais vu ce genre d'archives avant cet article-là. Parle-moi de l'idée de faire cet article-là. Qui l'a amené dans votre rédaction? Où est-ce que vous avez puisé vos archives? Et comment tu es arrivé à travailler avec, pas Antonin, mais Anthony?
Anthony.
Fait que, parle-moi de cet article-là. Meet the OGs of Montreal Hip Hop. Et c'est sur le site de CBC.
Exactement. Okay. Ah, je suis contente que tu me parles de cet article.
Ouais,
parce que
puis j'aime. Il y a comme une vidéo aussi.
Ouais.
C'est
très multimédia. On a touché un peu à tout. J'adore cet article. Franchement, j'adore cet article.
Ça fait longtemps qu'on se parle de cet article-là déjà.
Oui, c'est vrai, en plus, c'est vrai. On a discuté, je t'ai appelé, je voulais des conseils sur qui on pouvait interviewer, de quoi on pouvait parler, c'est quel thème et tout. Ouais. Parce que c'était vraiment flou au début, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. On savait qu'on voulait écrire sur le hip-hop. Comment ça a démarré? Déjà, Anthony et moi, on avait beaucoup de conversations sur le hip-hop. On échangeait beaucoup sur le hip-hop.
Ok, d'accord. Genre, lui aussi, c'est un fan de hip-hop.
Oui, grand fan de hip-hop. Beaucoup plus expérimenté que moi en hip-hop.
Okay.
Donc, et lui, il connaît, lui, c'est plus le hip-hop américain. Moi, c'était plus le hip-hop français. Donc, on échangeait des sons. Moi, je lui faisais écouter des trucs français et lui, américain. Mmh. Donc, c'était vraiment cet échange. Et ça, c'était vraiment de manière informelle. On discutait au bureau.
Ok, d'accord.
Et tout, on parlait et tout. Et à un moment donné, je pense que c'est lui, si je ne me trompe pas, qui m'a dit on devrait faire quelque chose sur le hip-hop, on devrait travailler sur un projet en commun, et il voulait vraiment m'encourager à écrire. Il voulait vraiment, c'est vraiment un mentor là pour moi, vraiment.
Ah ok, d'accord.
Il voulait vraiment m'aider à travailler sur un projet, un sujet qui m'intéressait. Donc il a lancé l'idée, et dans la salle de nouvelles, il y a des gens qui sont très fans de hip-hop aussi, qui connaissent très bien le hip-hop.
Okay.
Des gens qui ont été impliqués dans la scène carrément hip-hop depuis des années.
Wow, okay.
Donc on a Nantali,
ouais,
et on a Duke,
okay,
qui connaissent très bien le hip-hop. Donc eux, ils ont commencé à dire, eux aussi de leur côté, ils voulaient faire quelque chose au niveau de la radio. Donc voilà, eux aussi, après on s'est tous, on va dire, réunis avec, notre boss, on va dire, et puis on s'est assis, on a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire?
Là, c'était les 50 ans du hip-hop, c'était aussi les 40 ans du hip-hop québécois l'année dernière.
Exactement, donc on voulait se coordonner un peu, chacun, voir qu'est-ce que chacun pouvait apporter.
Très cool.
Et puis c'est ça, donc ça a démarré comme ça, des rencontres, on discutait, qu'est-ce qu'on peut faire
Mais ça, c'était en plus de votre quotidien, genre en plus de votre job au quotidien.
Ah oui, ça c'est rentré, nous on faisait d'autres trucs là sur le côté.
Bah oui.
On va dire que c'est un projet sur le côté,
okay,
mais important quand même, tu
vois. Ouais.
Donc c'est là que ça a démarré, c'est grâce à Anthony, vraiment j'ai envie de lui dire shout-out. Shout-out Nantali, Duke, vraiment ils nous ont beaucoup aidés. Et c'est là que ça a démarré. Et puis là, ça a commencé à se tracer un peu plus. Au début, on s'est dit, on va faire 4 parties. On veut toucher à tout. Vraiment, on voulait parler de tout ce qui était hip-hop ici au Québec. Après, on s'est dit, bon, Peut-être qu'on va faire trois parties. Là,
parce que c'est beaucoup
très
de travail.
Ambitieux, tu vois.
Ouais, grave.
Et
grave,
c'est beaucoup de travail. On voulait arriver dans les temps et tout. Après, on s'est dit bon, pourquoi pas parler de la scène hip-hop, comment elle a démarré. Et là, Duke nous disait, ah, oh, c'est Butcher T, Mike Williams, c'est des gens qui. Ont... Puis moi, je ne connaissais pas ces gens-là, malheureusement. Et j'ai beaucoup appris à travers cet article. Et il nous a dit, il nous a orienté vers ces gens-là. Il les connaît, genre, il les connaît très bien. Il nous a fourni des contacts. Nathalie aussi nous a suggéré des artistes pour notre deuxième article parce qu'il y a une deuxième partie par rapport à la scène locale contemporaine, comment ça a évolué et tout.
Ok, super.
Donc c'est ça, c'est comme ça que ça a démarré. On s'est dit on va commencer avec la base, comment c'est arrivé au Québec.
Grave.
Et c'est ça. Puis au Canada, ça a démarré à Montréal, hein, le hip-hop. Ouais. Beaucoup de gens ne savent pas, les gens pensent que c'est Toronto, mais ça a redémarré à Montréal. Donc, c'était tellement un beau projet d'interviewer toutes ces personnes, des gens qui ont beaucoup d'expérience, et pour la deuxième partie, des gens qui viennent de démarrer aussi dans le hip-hop. C'était tellement, tellement un projet intéressant, tellement cool.
Donc là, vous travaillez sur la deuxième partie, là ?
On l'a sorti.
Ah ouais ?
Je ne l'ai pas envoyé ?
Non.
Je te l'enverrai.
Oh my god, sérieux ?
On l'a sorti en février, ouais.
Ah ok, d'accord. Ouais, ok, donc très récemment quand même.
Ouais, très récemment, c'est ça exactement. Parce que la première partie, on l'a sorti, je crois, au mois de septembre.
C'est ça,
si
exact.
Je me trompe pas. Moi,
c'est
j'avais sorti un truc en août pour le block party qui a été organisé pour les 50 ans du hip-hop.
Oui, c'est ça, exact.
Donc c'est ça, ouais, on a sorti une deuxième partie sur le rap contemporain.
Toutes les magnifiques archives là, qu'on trouve dans
Midiogiz,
là, tout ça, d'où ça vient, tout ça là.
Ça vient des personnes, des gens qu'on a interviewés.
Incroyable.
Si je ne me trompe pas, je suis pas mal sûre que Duke aussi nous a envoyé des trucs. Lui, il connaît très bien ça, puis il a connu ces gens-là à l'époque.
Ouais.
Donc, tu vois, pour lui, c'était, voilà, c'est la base. Où est-ce qu'on a eu des archives aussi ? Bah, dans nos archives de CBC Radio-Canada.
Wow.
On a contacté Félix aussi qui avait des photos. Félix Desfossés.
Ouais.
Charlotte Félix Desfossés.
Bah, c'est lui qui a participé.
Les racines du hip-hop, ouais, c'est ça. On l'a contacté parce que lui, il avait des photos, mais qui venaient des artistes.
D'accord, ok.
Je donnais un exemple. Blondie B, par exemple, elle était. J'ai fait l'entrevue avec elle. Elle était sur un bateau de croisière.
Tu l'as rencontrée.
Je ne l'ai pas rencontrée. C'est sur Zoom.
Ok. Bah, non, mais c'est.
Mais elle est incroyable, cette femme. Elle est incroyable. Vraiment un bijou. Franchement, un bijou. Et. Elle était sur un bateau de croisière.
Incroyable.
Elle travaillait sur un bateau de croisière, carrément.
Okay.
Et puis, elle n'avait pas ses photos avec elle. Donc, elle m'a dit, contacte Félix, il va donner les photos que je lui ai données.
Ok.
Donc, en fait, les photos proviennent de ces gens-là, quoi.
C'est de la belle collaboration entre journalistes, entre...
Ouais, c'est ça. Lui, il avait les photos qui avaient été envoyées par ces gens-là, mais voilà, on a tous collaboré au final. Donc, non, c'est cool. Franchement, c'est très cool. Ouais.
Excellent. Il y a une vidéo dans le documentaire justement de Félix où il est avec un poste et Smaïn.
Ok, ouais.
Ils sont sur un banc avec Blondie B, puis genre
nice.
Blondie B rap, ils sont tous assis ensemble sur un banc, c'est incroyable.
Magnifique.
C'est magnifique.
C'est une femme incroyable. Franchement, c'est une femme incroyable. Elle a une personnalité magnifique.
C'est l'une des premières rappeuses de la ville, je pense.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est pour ça, en fait, qu'on a interviewé. Puis toute leur équipe, là, comment ils ont démarré tous ensemble. C'était des jeunes qui voulaient juste s'amuser et tout. Qui pensaient pas faire ça.
Puis ce qui est drôle, c'est que l'un des premiers disques de rap en France est une rappeuse aussi. C'est Salia.
Oui, on en avait parlé, toi et moi.
Ouais. Et moi, je parle beaucoup de Salia parce que j'ai pas envie qu'on l'oublie.
Ouais.
Y a des gens que j'ai pu retrouver, mais elle, j'ai vraiment du mal.
Ah ouais ?
Ouais, je sais pas, en fait.
Tu sais pas les rendus où ?
Je sais pas les rendus où, je sais pas quoi faire. Pourtant, j'ai vraiment des contacts très poussés à Paris, là.
Ok, ouais.
De gens qui étaient avec Assassin et tout, avec NTM au début et tout. Et j'ai vraiment des énormes contacts.
Ah ouais, toi, t'es dans l'élite du rap, là. Tu connais les bons.
Ouais. J'ai vraiment du mal à mettre la main sur Salia, quoi.
Bah Salia, si tu nous écoutes, Salia, contacte Pete.
Ouais, contacte-moi. Mais ouais, c'est ça, c'est l'un des premiers disques de rap en France, c'est une femme genre qui l'a fait.
C'est trop bien.
Ouais.
C'est trop bien. Et elles sont souvent oubliées hein, dans le rap. On pense que c'est un milieu très masculin. Oui, c'est un milieu très masculin où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes qui ont fait de grandes choses. Voilà.
Donc, allez lire cet article-là.
Merci.
Bah ouais, c'est important. Tu es l'animatrice de l'émission Le Crew.
co-animatrice
sur CISM avec Mélissa Awari.
Oui.
C'était quoi cette envie on the side de ta job de faire une émission de radio, de parler de rap? Puis on va faire un petit shout-out au crew aussi. Là,
oui,
cette
shout-out
émission
au
sur
crew.
CISM.
Yes, shout-out au crew, shout-out à
Mélissa. Shout-out Mélissa.
Mélissa, vraiment, j'adore cette fille-là.
Ouais.
Comment est-ce qu'on a démarré ? Déjà, on se suivait sur les réseaux.
Ok.
Mais on ne s'était jamais rencontrés. Tiens, à Montréal, on se suit tous un peu sur les réseaux.
Exactement.
On ne sait pas qui est telle personne. Montréal, ouais. C'est petit, voilà. Quand
ouais.
on dit que Montréal, c'est petit, c'est
ça,
petit.
C'est vrai. Ça, c'est vrai.
T'as remarqué ?
Ouais, c'est un village, en fait.
C'est un village.
Ouais.
On se connaît tous. Mais c'est ça, donc on se suivait déjà sur les réseaux. Et moi, j'avais vu sur le site de CISM qu'il y avait possibilité de faire des projets d'émissions. Et j'aime beaucoup le hip-hop.
Ouais.
J'ai toujours eu l'idée de faire un truc sur le rap français. Je me disais, j'aime beaucoup le rap français. Donc, on discutait, Mélissa et moi, je ne sais pas comment. On s'est rendu compte, sur Instagram, on parlait, on s'est rendu compte que on aimait toutes les deux le rap français, puis on est allé à beaucoup de concerts, mais on ne s'est pas vus. Genre,
okay.
On est allé au même concert, mais sans le savoir.
Okay.
Et là, à un moment donné, je lui ai juste dit, j'ai lancé l'idée comme
okay.
ça, là, vraiment.
Okay.
Je lui ai dit, en passant, si un jour tu as envie qu'on fasse une émission ensemble, il y a ça sur CISM, il y a possibilité. Elle m'a dit, tu sais quoi, je suis down. On s'est rencontrés, on a pris un café, vraiment, on est direct là, on s'est dit,
ouais.
Let's go. On a pris un café, on a discuté. Le courant est tellement bien passé. On a passé comme 3-4 heures à juste discuter de rap.
Incroyable. Ça, c'est les meilleures discussions. Man.
Magnifique. Franchement, tu sais, c'est, tu
ça,
sais
c'est
comment
l'histoire
c'est.
De ma vie, man.
C'est littéralement ça.
Moi, j'ai comme zéro vie privée. Je parle que de rap dans la vie. Je suis
ça
comme
n'existe
un...
pas.
Shout-out Mehdi Maizy. Shout-out à tous les gens qui parlent de rap.
Exactement. Donc, on a juste parlé comme ça. On parlait même pas du projet d'émission. À la base, on s'est rencontrés pour déterminer de quoi on voulait parler.
Okay.
On n'a fait que parler. On s'est dit, tu sais quoi, la connexion, elle est là.
Puis là, vous aimiez toutes les deux le rap francophone.
Ouais, exactement. Okay. On était d'accord sur la ligne éditoriale. On s'est dit, on veut vraiment parler de rap francophone parce qu'on parle de Montréal également, là, de Belgique et tout.
C'est ça, exact.
Donc, on s'est dit, on va travailler ensemble. Et après, on s'est rencontrés une autre fois pour faire le démo, écrire le projet et tout. Et puis, ça a passé et c'est comme ça que ça a démarré. Donc, gros charlotte à Mélissa. Mélissa, c'est devenue une amie. Voilà,
bah oui.
C'est...
Puis est-ce que tu savais qu'elle était dans la même branche professionnelle que toi?
Non, parce qu'au début, quand on a commencé, je crois qu'elle n'était pas encore dans le journalisme.
D'accord.
Elle étudiait encore, ouais.
Okay.
Elle n'était pas encore directement dans le journalisme. C'est après, c'est pendant qu'on a fait l'émission qu'elle est rentrée dedans.
Oh, super.
C'est vraiment parce qu'on voulait juste parler. Puis même, des fois, j'avais des questions que je me posais sur le rap.
Ouais.
Des trucs d'analyse un peu plus poussée et je me dis mais j'ai envie de parler de ça avec quelqu'un et elle et moi on a toujours une opinion et c'est là où la question de la semaine est venue, le concept de question de la semaine,
bien sûr.
Donc c'est ça, je suis vraiment contente du coup, franchement.
Ce qui est très très cool avec le fait de faire de la radio puis j'en ai fait, c'est que on a cette possibilité de pouvoir avoir des invités qui nous plaisent, tu vois.
Oui, c'est
Et de pouvoir mettre la main sur des gens, tu sais.
Bah oui.
Et donc.
Si t'as pas d'émission de radio, tu vas pas parler à ces gens dans la vie tous les jours.
Ouais. Non. Mais c'est vraiment cool, quoi. C'est une belle occasion, tu sais, de pouvoir, inviter des artistes que t'aimes.
Vraiment.
Ouais.
So far, ça a été vraiment une très belle expérience.
Mm.
Là, on va prendre une pause pour l'été.
Ouais.
Mais
on espère
revenir. Revenir en force parce que notre duo, on s'entend tellement bien. Puis on a des goûts musicaux différents, mais on a des similitudes également.
Okay.
C'est une belle expérience travailler avec elle. Ouais.
Terrible. Terrible.
Charlotte Mélissa.
Charlotte Mélissa, mais Charlotte la converse.
Gros bisous. Cœur sur vous.
Cœur sur vous. Tu travailles dans les médias, t'es journaliste, CBC, mm-hmm. mais t'es très discrète sur les réseaux sociaux.
Mon Dieu, c'est vrai, on en a parlé toi et moi en plus.
Ouais, on en a parlé plein de fois, genre on s'est challengé à être plus présent.
C'est vrai.
On a eu des challenges comme ça.
Ça fonctionne quand même, non? T'es plus présent.
Ouais.
Et je suis
un peu plus
relatif,
présent.
Hein, c'est relatif,
ouais,
enfin, moi, je sais pas.
C'est
présent.
Très relatif, mais...
Ouais.
La question qui vient avec ça, c'est est-ce que quand on est journaliste, quand on travaille dans les médias, on se doit d'être présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que
bonne question.
Est-ce que notre
profession fait que
ta profession, t'es supérieur les rédactions, est-ce que ils vous poussent à l'être, oui, non,
non.
Genre comment ça se passe de l'intérieur pour les gens qui se posent la question, tu sais, parce que il y en a certains qui le sont, d'autres
Ouais,
qui le
c'est
sont
vrai.
moins, comme toi.
C'est
Et
vrai.
donc, c'est cool parce qu'il y a des libertés individuelles.
Oui,
Fait,
oui.
c'est ça, genre, comment ça se passe
C'est une très très bonne
quand on est
question.
professionnel comme toi?
Mon Dieu, la pression.
La pression.
Non, c'est une bonne question.
Ouais.
Non, il n'y a pas de pression d'être sur les réseaux ou quoi que ce soit. Il n'y a même pas de.
D'incitation,
Non,
genre.
même pas. Franchement, ben, je ne l'ai pas vécu.
Ok.
Franchement, je ne l'ai pas vécu. C'est vraiment. Bah, chacun, si t'as, il y a des gens qui ont d'expérience, beaucoup d'expérience à CBC qui sont pas hyper présents sur les réseaux,
Ok.
qui sont là depuis longtemps, mais qui sont pas
Ok.
hyper présents, qui sont pas certifiés ou whatever, tu vois. Donc, ouais, c'est.
C'est important de le dire.
Ouais, non, c'est pas obligatoire. Est-ce que je pense qu'en tant que journaliste, tu devrais être présent sur les réseaux? Réseau, je pense que ça dépend de chaque personne et c'est aussi une question de personnalité, des fois, tu vois.
Ouais.
Il y a des gens qui veulent un peu, entre guillemets, pas s'effacer, mais qui veulent vraiment laisser leur reportage parler. Il y en a d'autres qui sont vraiment fiers de leur travail et c'est cool, et ils veulent le présenter. Donc ça dépend vraiment. Moi, la raison pour laquelle je ne suis pas présente sur les réseaux, c'est même pas.
C'est juste naturel,
Ouais,
genre.
c'est naturel. Avant, j'étais très, très, très présente.
Ok.
Je postais régulièrement sur Instagram. Mais là, je poste moins parce que, bah, il y a une partie, c'est de la flemme. J'ai la flemme. Genre, je vis des moments. Et j'ai pas envie d'après m'asseoir et de filtrer des photos et me dire, ah ok, quand je dis filtrer, je veux dire choisir une photo parmi toutes les photos et poster et tout ça, ou je sais pas.
Puis est-ce que pour
Ouais.
toi, tu te coupes de ça pour éviter d'être distraite, genre?
Non, même pas.
Non, même pas.
Ben,
Genre pour être.
naturellement, j'ai plus trop envie de. Après, je te dis pas que ça va pas changer. J'essaye
Ouais.
activement de poster. Toi, tu ris parce que tu sens que ça marche pas.
Non, parce que je sens que notre challenge a
Il a foiré.
il a foiré totalement.
Ouais, t'as raison. On va être honnête, c'est vrai que ça a
Ouais.
foiré. Mais non, j'essaye et j'ai envie. J'ai envie, pas parce que j'ai envie de me montrer ou de m'exposer ou
Ouais,
quoi que
ouais.
ce soit. C'est juste parce que je trouve que c'est cool aussi d'échanger avec des gens. Ce qui me manque d'avant quand je postais énormément, c'est que des fois, je postais des trucs, on va dire, des trucs politiques ou des articles de journaux. Et il y a des gens qui m'écrivaient, qui me disaient,
Avec des
on
opinions et
démarrait des
tout.
débats. Et tu vois,
Ah,
on
ok.
avait des débats et c'était magnifique. Et ça
Ouais.
me manque. Franchement, ça me
Ouais.
manque. Puis juste de, tu vois, partager ton quotidien avec des gens, c'est cool aussi. Tu vois, c'est un peu notre génération, c'est comme ça qu'on est maintenant. On va pas
Ouais.
le nier, on aime ça, voir ce que les gens font et que les gens voient ce qu'on fait. Mais je ressens plus ce.
Ce
C'était même
besoin-là.
pas un besoin, c'est, je le faisais naturellement et comme naturellement, je le fais plus maintenant. Mais j'ai envie de poster plus et même de poster des articles,
Ouais.
que ce soit les miens ou que ce soit d'autres articles, juste partager parce que c'est cool de partager.
Mais
Ouais.
d'un autre côté, tu peux te couper de ça et te concentrer sur ton travail, genre, et
Oui,
pas
sans.
être distraite par les réseaux
Oui,
sociaux.
franchement, sans problème. Après,
Ok.
c'est sûr que je suis des trucs sur les réseaux. C'est pas parce que je ne poste pas que je ne suis
Ouais.
pas présente et que je ne lis pas
Ouais,
parce
ouais,
que.
ouais.
Mon travail demande à ce que ben, je sois informée. Et des fois, pour contacter certains invités, ben,
Bah oui.
je vais pas
Ouais.
non plus supprimer mon Instagram,
Ouais,
mon
exact.
Twitter, mon Facebook et tout, parce que j'ai besoin. C'est la seule manière, des fois, de les contacter. Donc, c'est bien d'avoir un peu, pas un nom, mais d'être là, quoi, d'être présent
Ouais.
aussi. Donc, ça pourrait me désavantager si je.
Ok.
Ouais.
Mais tu sais, je suis tombé sur un article il y a quelques mois de ça, et là, on est. Bah en fait, il y a une nouvelle génération de jeunes, donc des gens qui sont plus jeunes que toi, qui ont même pas 20 ans, en fait, ou alors tout juste 20 ans,
Ah,
et on
ok.
appelle ça la décroissance.
Ok.
Ils ont pas de téléphone intelligent, ils refusent d'en avoir.
Wow.
Tu sais, genre, ils ont des flip-flops, là, ou des trucs comme ça. Ou
Ouais.
si ils ont des téléphones intelligents, ils ont presque pas de réseaux sociaux.
Ok,
Moi, je le vois
ouais.
avec les jeunes avec qui je travaille, ils ont tous des Instagram, mais il y a zéro post.
Ok.
Ils
Ah
postent
oui, mais je
rien.
connais des gens aussi qui. Ouais.
Et ça, et moi, je constate,
Ouais.
en travaillant avec des jeunes, en allant aussi dans les écoles, puis en prenant les réseaux sociaux des jeunes parce que c'est le seul moyen de les contacter,
Ouais, c'est
que
ça.
en fait tous leurs réseaux sociaux sont vides.
Ils ont, des fois, ils ont même pas de photo de
Ils ont
profil.
même pas envie de poster, ils s'en foutent.
C'est ça.
Puis en
Ouais.
plus ils écrivent des noms genre avec des caractères spéciaux, c'est impossible de s'en souvenir là, tu
Ouais.
vois. c'est genre majuscule.
Tu peux pas les trouver, quoi.
Ah non, ils sont introuvables, quoi. Fait que je trouve ça intéressant qu'il y ait de plus en plus de jeunes comme ça. Fait que là, je te parle vraiment de jeunes de genre 12 à 18, genre.
Mais même des gens de mon âge, hein, j'ai même des amis qui font ça. Ouais, ils ne sont pas du tout présents.
Ouais,
je trouve que c'est cool dans le sens où tant que... À partir du moment où tu ne te sens pas à l'aise de poster, que tu n'as pas envie de poster, ben, juste de ne pas suivre les gens juste pour suivre,
exact.
Je trouve que c'est bien. Tant que ça fit avec tes convictions, après, il y a des gens qui font ça pour être différents. Ça, je trouve que c'est... bof.
Genre,
fais ce qui te plaît, quoi.
Exactement.
Si ça fit avec tes convictions, que ça te correspond, bah, fais-le. Donc, je dirais pas que j'encourage ou que je n'encourage pas ce genre de choses, mais je trouve ça intéressant. C'est vrai, dans une génération, tout le monde est partout.
Tout le
monde s'affiche. Et c'est pas juste d'être partout. Il y a des gens qui posent des aspects de leur vie privée que des fois, ils devraient peut-être pas poster, tu vois.
Ouais.
Et de voir qu'il y a un contraste aussi, aussi grand, c'est intéressant.
Moi, je trouve ça cool de voir des jeunes qui n'ont pas besoin de poster leur vie, quoi.
Ouais, c'est bien, mais c'est libérateur aussi. Hein.
Grave.
Je ne vais pas te mentir, il y a des moments où j'ai supprimé mon Instagram et je sais pas, c'était comme s'il y avait un point en moins. Parce que je n'avais pas à, tu vois, regarder les stories des gens, d'être là, connecté toute la journée, à regarder, à scroll et tout. C'est libérateur. Mais maintenant que je suis revenue sur Instagram... je sens pas ce besoin de regarder les stories de tout le monde.
Ça, c'est
je regarde
cool.
juste les gens qui m'intéressent.
Bah, t'es moins distraite. En mode,
ouais, je suis moins distraite et je me dis telle personne c'est mon amie, ouais, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui, mais je vais pas regarder les stories de tous les gens de Montréal que je connais pas personnellement. No offense, j'ai pas trop envie de savoir, ça m'intéresse pas.
Très très cool.
Donc voilà.
Très très cool. Ouais. Non, puis c'était intéressant d'avoir ton avis de journaliste professionnel de l'intérieur, puis c'est quand même cool de voir qu'en travaillant pour un média professionnel, ben il y a pas de pression, genre chaque personne fait ce qu'il veut.
Ouais, il y a pas de.
S'ils ont envie, ils sont d'être présents, ils sont présents. S'ils sont pas présents, ils sont pas présents.
Oui,
c'est fine.
C'est vraiment ça. Puis ça, tu remarques que ça dépend aussi des personnalités des gens. Et des gens qui sont beaucoup plus discrets parce que dans la vie de tous les jours,
ils sont discrets.
Et même dans leur journalisme, tu vois la différence. Tu vois qu'ils sont un peu moins, ils font moins de on-cams, genre ils montrent moins leur tête à la télé, ils mettent vraiment le sujet, on va dire, au centre du reportage. Donc c'est une question aussi de personnalité, carrément.
Très très
cool.
Donc
je suis contente de pas avoir cette pression.
Bah ouais.
Mais je veux poster
clair.
Plus, donc soyez pas choqués si à un moment donné vous me voyez poster 15 stories, genre une rafale de stories.
Ça veut dire que il y en aura plus après pour les 6 prochains mois.
Voilà, exactement. C'est en général c'est ce qui arrive.
Bah ouais. Comment tu vois en tant que journaliste, par exemple, l'avènement d'outils, d'agents conversationnels utilisant l'intelligence artificielle, comme genre ChatGPT? Okay. Là, on est dedans, là, tu vois.
Ouais.
Là, on est dedans à fond avec ChatGPT, on est à fond sur l'IA. Il y a de plus en plus d'outils. Moi, je m'intéresse beaucoup à ça. J'ai commencé en utilisant beaucoup de ChatGPT par curiosité, j'ai commencé à avoir des limites, puis à avoir un plafond et à réussir à m'apercevoir quand c'est écrit avec cet outil-là ou pas. Toi, dans ton métier de journaliste, de rédactrice, puis j'en profite que tu sois au podcast pour nous donner un peu les dessous de comment ça se passe chez vous, avec bien sûr ce que tu peux dire et tout. Mais comment, dans un média professionnel comme le tien, vous voyez ça? Genre, quelque chose comme ChatGPT qui arrive et qui est comme...
Ma réponse va être tellement plate. J'en ai pas discuté. J'en discute pas avec mes collègues. Mais c'est sûr que c'est intéressant, c'est sûr que tout le monde s'y intéresse, on se pose tous la question de comment ça va affecter...
Est-ce que ça affecte
différentes... Ou est-ce que ça affecte déjà, ou est-ce que ça va affecter différents métiers, des professions, des sphères de notre société. Mais on n'en a pas discuté, on n'a pas eu de réunion ou quoi que ce soit. J'ai même pas entendu des collègues
nous
en
sommes
discuter.
En danger.
Non, c'est ça. Non, je vous rassure tout le monde, je pense pas qu'on se sente en danger en ce moment.
Bah, c'est très cool, c'est positif.
Mais c'est une bonne question. C'est vrai que peut-être qu'on devrait se poser la question. Peut-être que des gens se posent la question dans la salle de nouvelles et que je leur en ai juste pas parlé. Mais non, j'ai pas eu ces conversations-là. Donc c'est vraiment plate, mais J'ai
parce
pas
que
trop
moi
de
je te
réponse.
dis, quand je reçois des courriels ou je vois des fois des textes écrits parce que moi je suis très présent genre sur LinkedIn
Ouais.
et je vois j'arrive à savoir quand c'est écrit par ChatGPT puis que le texte n'a pas été
Ah.
retravaillé.
Ah ouais, mais tu fais l'analyse carrément, genre
Ouais.
tu regardes et tu
Ouais,
dis ouais, ça c'est.
j'ai rien à faire de ma vie, fait que je fais... Mais non, non, mais c'est dans la syntaxe.
Ouais,
Dans la
c'est
syntaxe,
clair.
c'est éclaté en français.
C'est
Mais total.
C'est vrai.
Ouais, parce que c'est un outil anglais.
Ouais.
Donc quand c'est utilisé en français, puis beaucoup de gens l'utilisent malheureusement par flemme.
Ouais, c'est vrai.
Mais je tiens à dire à tous ces gens-là, attention, parce qu'on vous voit.
On sait,
On
on se
sait.
sait et on sait.
Surtout quand on écrit, puis qu'on sait l'importance de la personnalité dans l'écriture,
Ah, bien sûr,
puis
mais
qu'on
tu le
reconnaît.
ressens. Surtout
Voilà.
quand tu connais la personne, tu te dis, mais
Exactement.
toi, t'écris pas comme ça et tu parles même pas comme ça. C'est pas toi,
Exactement,
ça.
exactement.
Donc, ouais, c'est
Et
vrai.
moi, je m'en aperçois dans des tournures de phrases
Ah oui.
que c'est pas. C'est syntaxement,
Ouais.
ça marche pas.
Ouais.
C'est pas français.
Ouais, c'est vrai.
Donc,
Toi, est-ce que ça t'inquiète, genre, au niveau
ben,
des médias, parce
moi, je
que...
l'ai beaucoup. Je m'en suis beaucoup servi par curiosité.
Ouais.
Et je suis très content. Et c'est drôle parce que il y a 2-3 jours, j'étais sur un forum là sur Reddit. Bah en fait, dans une discussion là sur Reddit, et il y avait des gens qui parlaient de ça en fait, qui s'en apercevaient en fait.
OK.
Tu vois?
Ouais.
Donc moi, je suis pas très content d'avoir trouvé des limites à ChatGPT, mais de pouvoir m'apercevoir, moi qui ai écrit beaucoup d'articles depuis une dizaine d'années. Puis qui ai beaucoup écrit aussi, genre à l'université, puis genre en maîtrise, mon mémoire et tout ça, j'ai beaucoup écrit, de pouvoir m'apercevoir à l'œil que c'est pas un humain qui a écrit un texte, quoi.
Ok. Est-ce que tu as des craintes justement par rapport aux, je sais pas, aux
Et ben
articles de
moins en
journaux,
fait.
Ah ouais, ok.
Moins,
Ok.
parce que si des gens avec de l'expérience comme moi, comme toi ou comme d'autres personnes qui écrivent le voient, on va pouvoir le dénoncer.
Mais est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, on va arriver à un point où on pourra pas voir la différence? Que ça va être
Non, je
tellement
pense pas.
développé qu'on va se dire, ah, ok, c'est un humain
Je
ou...
sais pas, tu sais, ça c'est comme Adobe Firefly, où genre tu peux personnaliser des images, puis des photos, puis des trucs comme ça.
Ouais.
Non, je pense pas.
Tu penses pas? À un
Non, je
moment
pense
donné,
pas.
dans un futur lointain ou proche?
Non, non, pas.
Ah ouais, ok.
Parce que là,
T'es
franchement, là,
optimiste?
je lance un défi à n'importe qui de m'envoyer un texte
Ouais.
qu'il a écrit sur ChatGPT,
Ouais.
puis et puis d'écrire le texte aussi sans ChatGPT,
Ouais.
je vais savoir quand c'est ChatGPT.
Ok. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, on s'en rend compte, mais je me dis, est-ce que ça va pas se développer à un point
Je
où
sais
on ne
pas.
saura pas? Ça, c'est vraiment... Ça pourrait être inquiétant. Pour l'instant, ça ne l'est pas parce qu'on s'en rend compte. On
Ok.
sait que...
Ouais.
Ok, ça, c'est pas toi qui l'as écrit. Mais ouais, mais j'ai pas cette
En tout cas,
inquiétude-là.
je
Ouais.
suis rassuré que toi, en tant que journaliste professionnel, tu n'aies pas d'inquiétude, puis il n'y ait pas trop d'inquiétude par rapport à ça.
Ouais, moi, encore une fois, je parle d'un point de vue personnel.
Bien
Peut-être qu'il
sûr.
y a d'autres gens dans la salle de nouvelles qui ont des inquiétudes, mais en tout cas, j'en ai pas entendu parler. Moi, Non, j'en ai pas, franchement,
Ok.
j'en ai pas. Pas pour l'instant, en tout cas.
Ok. Bon, ben, c'est très très cool. On va finir cette entrevue par ce qu'on a commencé, donc par la musique.
Ouais.
C'est quoi tes coups de cœur musicaux en ce moment? Donne-moi par exemple un artiste français, un artiste de Montréal peut-être, où t'as aimé, album, chanson, single, whatever.
Oh my God. Ok, bonne question, bonne question. Montréal. J'ai beaucoup. Ben, ça fait quand même quelques mois cet album, mais Lost, son dernier album,
Oui, très très
j'ai
bon, hein.
beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Puis voir son évolution aussi.
Ouais.
Donc, ouais, je vais sortir un gros nom de Montréal, mais ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Puis de voir aussi.
Très qualitatif, Lost.
C'est ça, très qualitatif. Et tu vois l'évolution dans ses textes aussi.
Ouais.
Tu vois que c'est. Voilà, c'est la maturité aussi dans ce qu'il raconte. Puis français, le dernier album que j'ai vraiment aimé, c'est celui de Zamdan.
Ok, ça j'ai pas écouté. Je
T'as pas
connais le nom,
écouté?
mais j'ai pas
Ouais,
écouté.
bah, je t'encourage à l'écouter.
Ok.
Ouais, Zamdan, c'est un artiste qui me touche beaucoup
Ok.
de par ce qu'il a vécu. Et de par ses, bah, ses textes, sa mélancolie, il rend sa mélancolie tellement belle.
Okay.
C'est tellement beau, c'est pas déprimant, c'est beau okay. à écouter. C'est tragique, c'est dramatique, mais c'est beau. Donc okay. C'est, moi, en ce moment, c'est Sesame Dan que okay. j'écoute. Ouais, Soul Sad.
Ok, et quelque chose que t'écoutes qui n'est pas du rap.
Oh mon Dieu, attends, je vais sortir mon téléphone.
Vas-y, vas-y.
J'ai peur. Parce que, enfin, en vrai, j'écoute de tout.
Bah moi aussi, c'est ça le truc.
Toutes les langues, ouais. toutes les cultures, tous les genres musicaux. J'ai recommencé à écouter du Lana Del Rey.
Oh, donc, ok.
Ouais, j'aime beaucoup.
Ok.
J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Ouais, donc j'ai retéléchargé des anciennes chansons d'elle.
Nice.
Donc c'est ça.
Est-ce que t'es plus single ou album?
Ah, tellement bonne question. Ah, comment je réponds à ça?
C'est dur.
Album,
hein
je pense album. Okay. Je pense album parce que bah
il y a rentrer dans un projet.
Ouais,
genre.
Tu rentres. Ça, il faut, mais il faut que l'album y ait quelque chose là. Faut ouais. Faut qu'il y ait une ligne directrice, faut qu'il y ait un projet, un vrai projet, pas juste un groupe de singles ensemble.
Exactement.
Balancé dans un
exactement.
Album.
Exactement. Puis là, tu vois direct la différence, t'es.
Bah bien sûr, ouais. tu vois la différence. Bah, oui. Mais c'est clair. Donc ouais, un album, mais qui a un projet, qui a quelque chose, qui a une okay. proposition. Ouais.
Et dernière question, est-ce qu'il y a un album d'un artiste ou d'une artiste que tu attends? Puis là, t'es comme fuck. Qu'est-ce que cet artiste-là est en train de faire en ce moment? Get a grip. Go, est-ce qu'il y a un artiste, une artiste dont là tu attends par exemple le prochain album, genre, puis qui
Je pense que tu peux répondre à la question toi-même. On va faire un loop avec le début de l'entrevue.
Nekfeu.
Bah oui. Ah oui. Bah oui. Ah bah je oui. l'attends de pied ferme là. J'attends de pied ferme. Non, je.
Beaucoup de gens parlent en ce moment de ouais. de c'est bizarre, mais beaucoup de gens parlent de Nekfeu en ce moment.
Ouais.
Comme quoi. Comme si on était en train de deviner que c'est cette année, que genre il va revenir.
Ouais.
Moi, j'ai peur qu'il ait arrêté.
Moi, je pense pas en vrai. Mais je suis même pas inquiète à ce niveau. En vrai, je suis vraiment pas inquiète.
Ok.
Et puis, je suis pas le type de personne qui écoute sa musique qui se dit « Oh mon Dieu, il faut qu'il revienne. » Tu vois, je suis pas en panique. Là.
Okay, donc, si genre il arrête le rap, t'es en paix avec ça.
Bon, faut pas abuser. Faut pas abuser. Non, mais
tu sais, genre, il est rare, quoi. Tu sais, genre, comme
moi,
Alpha One,
ils sont rares. Ouais, c'est ça.
Ils sont super rares.
Exactement.
Ils sont pas sur les réseaux et tout.
Ils sont rares, mais au final, ils produisent des trucs vraiment de ouais. qualité.
Mais tu
donc
vois, ils sont pas sur Insta,
ça.
Ils sont nulle part.
Ça
quoi.
Me dérange pas. Franchement, je suis pas là okay. à me dire, oh mon Dieu, faut qu'il poste un truc aujourd'hui. Non, c'est ouais, bon. Ouais. Il fait sa vie. Il a sa vie. Il a sûrement des trucs sur le côté et tout. Donc, non, je suis pas en panique. Je me dis pas, oh mon Dieu, il a disparu, c'est fini. C'est quoi le. Non, mais tu vois, il a sorti un album avec le S-Crew. Ça fait pas si longtemps que ça. Il a pas disparu.
C'est vrai, c'est
il a
an
fait
ou deux.
Plein de featuring ces dernières années. Il c'est n'est vrai. Pas. C'est pas comme s'il avait ghosté et que tu vois. Donc
c'est vrai,
je
il a
pense
fait
que
plein
si
de featuring.
Vraiment il voulait arrêter le rap, ben il aurait pas fait cet album avec le S-Crew. Il aurait arrêté complètement.
Ouais.
Il aurait pas fait des featuring. Et puis on l'a vu dans des vidéoclips, il a pas disparu.
C'est vrai.
Puis le son dernier album c'était 2019, donc on est en 2024, ça va quoi. Ça va. On est trop habitué à la surconsommation. On veut
c'est
un album à chaque
ans,
année.
Quoi.
Oui, mais je suis pas choquée.
Ah ouais, t'es pas choquée?
Non, je suis pas choquée.
Et c'est drôle parce que je trouve qu'on est de moins en moins choqués à une période où genre faut sortir quelque chose tout le temps, puis les rappeurs
oui.
sortent deux albums par an.
Mais c'est dommage.
Mais là, on est en train, ouais. C'est ça, parce qu'il
y en
a plus
qui
de
sortent
rareté.
Deux albums par an et c'est la même chose qu'ils ont fait sur l'album d'avant. Il n'y a pas d'originalité des fois, il n'y a pas de créativité. C'est, tu sens que c'est sortir des sons juste pour sortir des sons et se faire de l'argent.
Ouais.
Je ne dis pas tous, mais il y en a, c'est ça. Donc moi, je trouve ça cool, les artistes qui se font rares et
okay.
qui reviennent
bah,
avec
je vais
un
être
beau
plus
projet.
Positif alors, puis je vais
ouais,
être positif et je vais être confiant. Parce que...
Bah oui, si moi qui... Tu vois, c'est mon artiste préféré. Si moi, je te dis, ça va.
Ah ouais,
on...
c'est la fin.
Mais...
C'est la fin
ça
du
va,
monde.
Ça va, quoi. C'est ouais. tranquille. Ouais, ouais.
Ouais, ok.
Mais on est que on t'attend quand même.
Ouais.
Non, mais en vrai, ouais, je pense que ça va donner quelque chose de beau s'il revient à un moment donné. Je pense pas qu'il va arrêter, franchement. Il est jeune aussi.
Ouais, oui. Bah jeune. Oui. Il y a, je pense, il a 31 ans, 32 ans.
Je sais pas exactement, mais en tout cas, trentaine. Donc, c'est jeune quand même.
Est-ce que tu savais, je l'avais interviewé, moi?
Je pense que tu me l'as dit.
Ouais.
Je pense que tu me l'as dit. C'était quand, ça?
Merci. Puis un gros shout-out à Sharaf.
Shout-out, ouais, Sharaf.
Est-ce que tu vois qui c'est, Sharaf?
Oui, Sharaf, ouais, le manager de Lost
ça.
Et toi, ouais.
C'est ça. Bah, à l'époque, il avait un média qui s'appelait Interpora avant 11MTL.
Oui, mais je connais, mais ça me dit, bah oui, ça me dit quelque chose, bah oui.
Et donc,
oui.
2000, je sais pas, 10, 9, 10, 11.
Ok.
Ou alors 10, 11, 12, 13.
Mmh.
Et en fait, Letty, qui est dans Culture, Smain, et d'autres personnes, on était tous dans Interpera.
Ok, cool.
Et j'ai connu Smain. La première fois que j'ai vu Smain, c'est le jour où j'ai interviewé Nekfeu.
Oh mon Dieu, cette connexion de fou.
C'est incroyable. Wow. Et c'était 4-5 mois, en tout cas, je ne me rappelle plus exactement, mais avant la sortie de Feu.
Ok.
Et en fait, il était venu à Montréal.
Ça fait longtemps que...
Ouais. Bah, c'était en 2015.
Ouais. Cool.
Ou alors fin 2014. Bon, en tout cas, je ne me souviens pas. Mais ouais, j'ai...
T'as sorti l'entrevue ou...
Elle est écrite.
Ah, tu me l'enverras.
Ouais, elle est écrite. Ouais. Et Sharaf continue chaque année à payer l'hébergement du site d'Interpera pour pas que tout ce qu'on avait fait disparaisse.
Oh, c'est trop bien.
Waouh. Ouais, et donc je l'avais rencontré. Et donc on a parlé. Tu sais, genre, on n'est pas de la même génération. Ben, on n'est pas loin. Tu sais, j'ai comme 6-7 ans de plus que lui, quoi.
Okay, ouais.
Mais on a grandi avec les mêmes trucs.
Ok, tu vois, les mêmes références.
Ouais, c'est ça. Fait que j'ai eu l'impression au bout de 5 minutes d'être assis avec un pote, quoi.
Ah, c'est bien. Ah, ça, c'est le meilleur type d'entrevue, franchement.
Ouais.
Quand tu te sens à l'aise et que la personne est à l'aise également, qui t'a pas à, tu vois, forcer une conversation, que c'est naturel, c'est cool.
Dis-toi que c'était une autre époque, parce qu'à l'époque, on parlait sur Messenger avec Nekfeu.
Oh mon Dieu! Tu me niaises. Ouais, tu l'as trouvé comme ça sur Facebook. T'as tapé son nom complet ou Nekfeu.
Non, parce qu'après l'entrevue, en fait, il nous avait donné son contact.
Ok, cool.
Mais c'était
donc
drôle.
Tu t'écrivais à Nekfeu sur Facebook.
Ouais.
Trop bien.
Sharaf aussi, quoi.
Trop bien.
Ken Samara,
époque,
quoi.
Ça.
Ken Samara qui était sur Facebook. Bon, en tout cas, cool. Nekfeu revient.
Ouais, ben reviens, Nekfeu. J'adore comment on finit l'entrevue, comment la démarrer.
Ça, c'est parce qu'on est des professionnels.
Bah oui, on connaît ça.
Tu vois, donc merci.
Merci à toi, Pete.
D'avoir
accepté. Trop cool.
Ouais. J'ai adoré. Ok. Ça t'a plu ?
Oui, vraiment.
Tant
et
mieux.
Puis t'as des très bonnes questions. Et...
Merci.
Journaliste professionnel, Pete.
J'ai fait des recherches, t'as vu ?
T'es incroyable.
Imagine, des fois, je fais des épisodes avec des gens qui n'ont rien sur Internet. Et là, je suis
chaud,
comme...
Hein.
Au moins, toi, il y a quelques informations.
Elles
tu
sont
quand
rares
même
quand
présente.
Même, elles sont rares quand
oui,
même.
Elles sont rares, mais il y a quand même des pistes.
Ouais, ouais, ouais.
Des pistes, donc voilà.
Merci.
Merci
à toi, franchement, merci, c'était cool.
C'était Enya sur Dans le vent. Ciao.